Bonsoir à tous et à toutes. Donc, ce soir, c'est une conférence toujours en lien avec la prière. On avait parlé un petit peu de la dernière fois de la difficulté qu'on peut rencontrer dans la mission quand on se trouve en butte avec des choses faussées, c'est-à-dire avec des lois qui ne sont pas très justes, avec des fonctionnements qui ne sont pas très justes, avec des propos auxquels on a du mal à apporter une réponse chrétienne, parce qu'on se sent un peu sali par un système, un fonctionnement, et on avait dit que c'était ça, dans la Bible, ça correspondait à Magog, c'est-à-dire une des deux manières dont le malin s'y prenait pour perdre l'homme et la femme, c'était de semer de l'ivraie dans le champ qu'est le monde, de semer de l'ivraie et de faire en sorte qu'on en mange. On n'arrive plus à faire la différence entre le blé et l'ivraie, et que petit à petit on s'habitue à un environnement où le mal est banalisé, quoi. Voilà. Donc ça, c'est Magog, c'est la persécution cachée. C'est dans l'Apocalypse, ça correspond à la bête panthère, c'est-à-dire qui avance à pas de velours et qui va transformer le système, qui va transformer le monde de manière négative et provoquer petit à petit une persécution des chrétiens, même si c'est pas forcément une persécution forte. Ça va être un décalage progressif. On peut penser par exemple à Daniel dans la fosse aux lions, dans la Bible, où d'un coup il y a une loi qui sort pour interdire de se prosterner devant d'autres personnes que le roi. Et Daniel se retrouve hors la loi du jour au lendemain. Et on a la même chose dans le livre des martyrs d'Israël, le livre des Maccabées, avec les frères qui refusent de se prosterner devant le roi. Voilà, ça c'est Magog, c'est vraiment le changement progressif des mentalités. Et on avait dit qu'en France, il y avait des choses qui s'étaient passées, enfin auxquelles on pouvait penser, notamment par exemple la Révolution française, qui déclarait que l'État, progressivement, que la France n'a pas besoin de Dieu. La loi de 1905 qui a continué ça en disant bah, l'État n'a pas besoin de Dieu, on peut mettre une séparation parce que il faut déréguler le fonctionnement de l'État. On a ça avec l'économie, en disant on laisse l'économie à elle-même, le bien se fera de lui-même, et on voit bien que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Si chaque personne à l'échelle individuelle ne met pas de l'humanité pour arracher l'ivraie ou demander au Seigneur de venir arracher l'ivraie, il y a des mauvais fonctionnements qui s'instaurent. Les entreprises, de la même manière, il y a des mauvais fonctionnements où on se cache derrière des lois qui ne sont pas toujours bonnes. Et nous, on est un peu en difficulté parfois en tant que chrétiens, parce que on se retrouve à dire il faut que j'applique la loi parce que ça vient aussi du Seigneur, les lois, et en même temps il y a des lois, je vois bien que tout n'est pas juste, et ça c'est difficile. Il y a des paroles comme celle du Christ où il dit qu'il est au-dessus des lois, Jésus, et que les fils de Jésus, en fait les baptisés, sont au-dessus des lois, et c'est difficile à mettre en application. Et aujourd'hui on parle de la deuxième forme de persécution, qui est la persécution frontale, la persécution violente, où on va obliger quelqu'un. Alors ça peut être par des paroles extrêmement violentes, une forme de manipulation, mais frontale, qui fait froid dans le dos un petit peu. C'est pas la manipulation lente, mais plutôt la parole d'effroi, voilà. Et c'est Gog, dans la Bible, c'est Gog. Donc on le trouve, on avait lu cet extrait-là la dernière fois, dans le prophète Ézéchiel au chapitre 38, où il parle de Gog, ce roi infâme qui exerce la violence au pays de Magog, c'est-à-dire ce roi qui va petit à petit transformer le pays en semant de l'ivraie, de manière cachée, non pas comme Dieu qui fait les choses dans la lumière, mais qui va faire les choses en douce, ou qui va provoquer des lois en disant c'est pour telle raison, et puis petit à petit les raisons se transforment. On voit bien les lois pour l'avortement, c'est comme ça que c'est passé. Au départ c'était oui, mais c'est dans tel cas particulier, etc. Et on voit bien que il y a d'autres choses, comme les lois sur l'euthanasie, si ça sort, ça va être pareil, ça va être dans le cas particulier d'une personne qui vraiment, puis petit à petit ça risque de devenir un droit de dire allez, on pousse les personnes âgées, parce que après tout, vous voyez, et ça c'est vraiment Magog, et le roi qui veille sur ce champ d'ivraie, c'est Gog, c'est celui qui va, dont le but ça va être de persécuter le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, alors pourquoi on parle de ça? C'est parce que je pense que dans notre civilisation, on est peu confronté aux persécutions vraiment fortes. On en a un petit peu, des persécutions en France, parce que de temps en temps, voilà, On nous dit on va vous interdire de faire une crèche ou de faire une procession ou de il y a déjà un début de persécution, même si c'est pas de la persécution avec une effusion de sang, mais quand on regarde les premiers chrétiens, ils étaient prêts aux martyrs en fait, et parce que ça leur apparaissait comme le sommet de la réussite sociale d'être martyr quoi. Et nous on se dit non, jamais moi je voudrais être martyr parce que c'est pas notre fonctionnement, et finalement normalement il y a un lien entre la prière et la croix, et entre la croix et l'acceptation de ce que le Seigneur va nous demander, parce que plus on sera préparé à des éventuelles persécutions, plus ça passera comme une lettre à la poste, parce que Jésus dit bien que dans ces cas-là l'Esprit Saint va nous être donné, et puis que ça va être plus facile que ce qu'on imagine avec notre réflexion humaine. Donc, ça sera en plusieurs parties. D'abord, une partie un petit peu plus longue, le pourquoi et comment la persécution. Comment ça vient? Alors, j'ai parlé un petit peu de celui qui va semer de l'ivraie, et ça, c'est une, voilà, la fausseté qui grandit va mener à la persécution. Mais on va se placer aussi du point de vue du persécuteur. Que se passe-t-il dans la tête du persécuteur, et comment être pris de miséricorde pour le persécuteur? Parce que c'est ça un petit peu ce qui fait que la persécution est plus douce, parce qu'on est pris de pitié pour celui qui s'égare, quoi. C'est comme ça que, en tout cas, que Jésus a vécu sa croix. On va parler un petit peu du rugissement, qui est un élément particulier dans les persécutions. Le rugissement, donc, c'est la parole qui glace d'effroi. La parole violente qui glace d'effroi. Voilà, il y a des rugissements, on en trouve un peu partout. On va parler de la juste attitude du persécuté. Voilà, quelques éléments pour finalement se repérer en période de persécution. Alors, persécution, évidemment, les petites et les grandes persécutions. Dans notre vie, on a toujours des petites persécutions, au moins. On va parler des grâces lors de la persécution. On reçoit beaucoup de grâces, et ça vaut le coup qu'on en parle. Et on dira un petit mot sur les signes précurseurs des persécutions. Voilà. Et je vais m'appuyer principalement sur des éléments bibliques. Moi, j'ai une passion, un amour pour la parole de Dieu. Je trouve que c'est une manière universelle de parler de Dieu. Certains ont des charismes pour parler des saints, pour parler des pères de l'Église, etc. Une Bible, c'est ce qu'on a tous chez nous, et j'aime bien ce concept de pouvoir, à partir d'un passage, regarder ce qu'il y a derrière, pour qu'ensuite on puisse méditer là-dessus en repartant chez nous, rouvrir notre Bible, etc. Alors, pour commencer la première partie, pourquoi et comment la persécution ? Il y a cette question de qui est visé. Et il y a un extrait du livre de la Sagesse, au chapitre 1, verset 16, et les versets suivants, qu'on lit régulièrement dans la liturgie. Donc c'est Sagesse 1, verset 16, et suivant. Mais les impies, donc ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui s'éloignent de Dieu de manière volontaire, ont invité l'Hadès du geste et de la voix. S'éprenant d'amitié pour lui, ils se sont pâmés. Puis ils ont conclu un pacte avec lui. Aussi méritent-ils d'être de son parti, car ils se disent entre eux avec de faux raisonnements, elle est courte, elle est triste, notre vie, il n'y a pas de remède quand l'homme touche à sa fin, et personne, à notre connaissance, n'est revenu de l'Hadès. Nous sommes nés à l'improviste, et après ce ne sera comme si nous n'avions pas existé. Le souffle dans nos narines n'est qu'une fumée, la pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Qu'elle s'éteigne, le corps se résoudra en cendres, et le souffle se dissipera comme l'air fluide. Notre nom sera oublié avec le temps, et personne ne se rappellera nos actions. Notre vie aura passé comme un nuage, sans plus de traces. Elle se dissipera telle la brume, chassée par les rayons du soleil et abattue par sa chaleur. Notre temps de vie ressemble au trajet de l'ombre, et notre fin ne peut être ajournée, car elle est scellée et nul ne revient sur ses pas. Eh bien, allons, jouissons des biens présents, profitons de la création comme du temps de la jeunesse, avec ardeur. Du meilleur vin et de parfums enivrons-nous. Ne laissons pas échapper les premières fleurs du printemps. Couronnons-nous de boutons de rose avant qu'elles ne se fanent. Qu'aucun de nous ne manque à notre fête provocante. Laissons partout des signes de notre liesse, car c'est notre part, c'est là notre lot. Opprimons le pauvre qui pourtant est juste. Là, donc, on a eu une profession de foi de celui qui dit « Je veux m'éloigner de Dieu et voilà pourquoi. » Et là ensuite, on arrive à l'oppression. Opprimons le pauvre qui pourtant est juste, n'épargnons pas la veuve, n'ayons pas égard aux cheveux blancs du vieillard, mais que pour nous, la force soit la norme du droit, car la faiblesse s'avère inutile. Traquons le juste, il nous gêne, il s'oppose à nos actions, il nous reproche nos manquements à la loi, il nous accuse d'être infidèles à notre éducation. Il déclare posséder la connaissance de Dieu, il se nomme enfant du Seigneur, il est devenu un reproche vivant pour nos pensées, et sa seule vue nous est à charge. Sa vie ne ressemble pas à celle des autres. Sa conduite est étrange. Il nous considère comme une chose frelatée. Il s'égare de nos voies comme de nos souillures. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour père. Voyons si ces paroles sont vraies. Vérifions comment il finira. S'il est juste et fils de Dieu, alors celui-ci viendra à son secours. Il l'arrachera aux mains de ses adversaires. Mettons-le à l'épreuve par l'outrage et la torture pour juger de sa sérénité et apprécier son endurance. Condamnons-le à une mort honteuse, puisque selon ses dires, une intervention divine aura lieu en sa faveur. Voilà. Donc ça, c'est un texte de la sagesse que je trouve très beau, qui dit, premièrement, Dieu n'a pas créé la mort. Premièrement, Dieu n'a pas créé la mort. Deuxièmement, voilà en quoi je crois. Je crois que tout est vain, il n'y a pas de vie éternelle. Je vais jouir des biens présents et je vais faire des fêtes provocantes. Et je vais me mettre à être injuste avec les pauvres d'abord. Et ensuite avec les justes qui ont plus de force intérieure puisque leur vie réglée, leur vie juste, est un témoignage pour nous qui nous heurte et qui va nous perturber, qui va en fait être un petit peu le garde-fou qui va nous empêcher d'aller jusqu'au bout dans nos actions, parce que le juste est dans la même entreprise que moi et il est sans arrêt à essayer de pratiquer la justice. Et voilà, donc ça c'est un petit peu ce qu'on peut entendre dans la bouche d'un persécuteur en caricaturant le persécuteur, quoi. Voilà. Donc qui est visé? Dans la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens, on lit au chapitre 6 « Car nous ne luttons pas contre des hommes, mais contre les forces invisibles, les puissances des ténèbres qui dominent le monde, les esprits du mal qui sont au-dessus de nous. » C'est vraiment quand une personne se met à entrer dans ce débat-là intérieur en disant « Je vais rejeter Dieu pour telle et telle raison » et petit à petit, par un mouvement volontaire, non pas « Je ne sais pas que penser de Dieu », mais plutôt « Je ne veux pas de Dieu, je le refuse, s'il existe. » Il y avait quelqu'un, je ne me rappelle plus qui disait « Moi, quand je mourrai, même si Dieu se présente à moi, je n'y croirai pas. » Et c'est vrai que la profession de foi athée, c'est ça, c'est de dire « Je n'en veux pas, quoi. » Voilà. Et aujourd'hui, alors le mot athée a deux significations. Le athée, ça peut être soit l'esprit d'incrédulité, soit la personne qui, de fait, ne connaît pas Dieu et qui dit « À mon avis, il n'existe pas de Dieu. » Mais une personne qui dit « Il n'existe pas de Dieu, mais s'il existe, bah pourquoi pas ?» Finalement, il est plus proche de l'agnostisme, même si dans la pratique, il est athée. Alors que celui qui, un vrai athée, il va dire « Je refuse de croire en Dieu et je ne souhaite pas qu'on m'en parle. » Donc c'est celui qui est persécuté, en fait, à travers ses forces des ténèbres qui vont influencer une personne négativement, c'est Dieu lui-même. C'est d'abord Dieu qui est visé, c'est pas une personne, la personne persécutée. En second lieu, c'est le peuple de Dieu. Et de manière principale, le Messie de Dieu, c'est-à-dire celui qui va, dans le peuple de Dieu, avoir cette capacité de racheter un grand nombre de personnes. Dans le peuple de Dieu, aujourd'hui, ça va être le prêtre qui a un rôle central. Les prêtres, aujourd'hui, sont malmenés par les forces des ténèbres. Et il va y avoir une persécution régulière de la part de tout un tas de gens, parce que on va s'acharner contre cet homme qui a refusé la vie conjugale en disant « Moi, je veux être un signe du royaume de Dieu, quoi. » Voilà. Et en second lieu, ce sont les membres du peuple de Dieu. Voilà. Alors, on va regarder l'histoire de Caïn et Abel dans le quatrième chapitre de la Genèse. Caïn qui est le premier persécuteur et Abel le premier martyr. Donc, on a cette histoire. Alors, je vous ai imprimé une petite BD. Je me suis dit que si c'était illustré, ce serait plus sympa. Merci. C'est quelqu'un qui faisait des BD un peu trash, un peu, et puis qui n'était pas du tout chrétien, et qui un jour a dit, qui a lu un petit peu la Bible, comme ça, de loin, merci, et il s'est dit, il a été touché par cet ensemble d'écrits qui appartiennent au patrimoine de l'humanité, et il a dit, j'ai envie de faire la Genèse en BD, voilà. Et il s'est renseigné, merci, il s'est renseigné, pour être le plus proche possible du texte original. Et donc c'est une vraie méditation qu'il nous livre là. Et je trouve ça beau parce que, alors, il fait des personnages qui sont très poilus. C'est un peu sa marque de fabrique. Donc on a l'histoire de Caïn et Abel. L'homme connut Ève, sa femme, et conçut, et enfanta Caïn, et dit, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. Elle enfanta aussi son frère Abel. Abel devint gardien de moutons. Alors, je fais une parenthèse. Souvent, les gens appelés à des grandes missions, ils sont gardiens d'un troupeau, ils sont bergers. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On a Moïse aussi dans la série, on a David, on a... Voilà. Alors, tandis que Caïn cultivait la terre. Et il advint après un certain temps que Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel apporta aussi les meilleurs premiers-nés de son troupeau. Et l'Éternel tint compte d'Abel et de son offrande, mais Caïn et son offrande, il n'en tint pas compte. Caïn fut très affligé, son visage fut abattu. Et l'Éternel, Dieu, dit à Caïn, « Pourquoi es-tu affligé, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Car que tu offres bien ou que tu n'offres pas bien, le péché est tapis à ta porte, à la porte de ta tente, et c'est toi qui le désires, et pourtant tu peux être son maître. » Et Caïn dit à son frère, « Allons dans le champ. » Et quand ils furent dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Et il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et il dit, « Qu'as-tu fait ? Écoute, le sang de son frère crie vers moi depuis la terre, et donc, maudit tu seras par la terre qui a ouvert grand la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Si tu cultives la terre, elle ne te donnera plus sa force, tu seras un vagabond errant sur cette terre. » Et Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop lourd à porter, à présent que tu m'as banni de la face de la terre, et que je dois me cacher de ta face et être un fugitif et vagabond, quiconque me trouvera me tuera. » Et l'Éternel lui dit, « Ainsi quiconque tuera Caïn subira 7 fois la vengeance. » Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Alors, oui, donc, pourquoi et comment la persécution dans cette partie? On va parler de Caïn et Abel. On va regarder aussi Ésaü et Jacob, parce qu'il y a une persécution de Jacob par son grand frère Ésaü. Et on va regarder aussi la persécution de David par Saül, le roi, qui le persécute, qui veut le tuer. On voit dans ce premier itinéraire de persécution... Le sacrifice est premier pour Abel. Hein. Abel offre les prémices de son troupeau et les premiers-nés de son troupeau, ce qui est le plus important dans ce qu'il a, il l'offre au Seigneur. Un peu comme quelqu'un dirait, moi, dès que je me lève, je prie, ou dès que je voudrais faire quelque chose de bon, je rends d'abord grâce au Seigneur et ensuite je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Et alors que Caïn a une attitude plus servile où il va dire, bon, je me sens un peu obligé. On voit un petit peu sa tête, hein. Là, je trouve que c'est très bien traduit, puis il a force un panier bien lourd en se disant « bon, bah, c'est bon, avec ça, il va me lâcher, quoi ». Et puis il fait son offrande, et l'Éternel manifeste un petit peu qu'il agrée l'offrande d'Abel de cette manière-là, en accueillant cette offrande, pour montrer à Caïn « tu peux encore grandir », c'est une attitude paternelle, en fait. Hein. Voilà. Mais effectivement, ça n'apparaît pas forcément à la première lecture. Et Dieu n'est pas inactif, et c'est très paradoxal parce que on s'attendrait à ce que Dieu aille voir Abel en disant faut que tu surveilles tes arrières, je crois que ton frère mijote quelque chose contre toi, et pas du tout. Il va voir Caïn. Il va voir Caïn en lui donnant une parole pour lui permettre de se racheter, en lui disant je t'envoie un rappel à l'ordre pour que tu réfléchisses sur ton attitude, parce que moi, ton père, je vois que tu es sur la mauvaise pente, en fait. Moi, je trouve que c'est renversant, parce que le Seigneur entre en dialogue avec le meurtrier. Parce que là, alors, on voit l'Éternel qui agrée l'offrande d'Abel. Alors, on ne sait pas s'il le voyait vraiment avec leurs yeux. Là, c'est mis en image. Mais on a l'impression que l'Éternel se fait plus proche de Caïn que d'Abel. En fait, c'est un peu comme si dans sa prière, Caïn avait une faculté particulière à être touché par le Seigneur. « Et il lui dit en fait deux choses. Pourquoi ton visage est abattu? Il l'invite à rentrer en lui-même. Pourquoi es-tu abattu? Parce que la réponse c'est parce que tu as le cœur triste. Tu as quelque chose en toi qui semble blessé par cet état de fait, par cette situation. Et ensuite, une fois qu'il l'invite à rentrer en lui-même, à faire le bilan sur ce qu'il est en train de penser, il l'invite à réfléchir au choix qu'il a devant lui. Il lui dit, en fait, tu as le choix avec le péché. Le péché est tapis à ta porte, mais c'est à toi de maîtriser ce chien enragé qui est devant toi. Ne te sens pas abattu par ce sentiment d'abandon, cette jalousie, en fait. Voilà. Et on voit bien que c'est de la jalousie parce que ça, c'est la première chose qu'on peut dire sur pourquoi et comment la persécution. Le premier élément dont se sert le malin pour utiliser le persécuteur à son avantage, c'est la jalousie. Et il est jaloux de quoi? Il semble être jaloux de la relation entre Dieu et Abel, en fait. Hein, parce que Dieu aurait agréé l'offrande d'Abel, et donc c'est comme si Abel avait une relation plus approfondie avec Dieu, alors que là, c'est lui qui est en dialogue avec Dieu, en fait. Il y a une perception faussée, et du coup, la jalousie provoque comme un aveuglement qui l'empêche de voir, oui, mais le Seigneur, il vient de me parler, là, alors pourquoi je me plains, en fait? Et, alors c'est vrai qu'il y a le reproche, c'est jamais agréable, et pour nous, ça va pas forcément être le Seigneur qui nous apparaît dans une illumination, mais pour un persécuteur, ou de manière plus large, pour quelqu'un qui, à un moment, a du ressentiment contre quelqu'un d'autre, parce que voilà, on est tous dans ce cadre-là, le Seigneur qui ne semble pas agréer notre offrande, ça va être des éléments qui vont nous contrarier, des situations qui vont nous contrarier autour de nous. Voilà, c'est vraiment typique et qui nous donne l'impression que le Seigneur va plus bénir d'autres personnes. Voilà, des personnes qui ont plus de moyens que nous, des personnes qui ont plus la santé que nous, des personnes qui ont plus de chance en amour que nous, etc. Ça, c'est vraiment typique. La jalousie, ça naît de là. Alors que souvent, cette situation que permet le Seigneur est comme un rappel à l'ordre sur des choses sur lesquelles il veut nous ramener, en fait, comme un berger. Parce que la suite que donne le Seigneur à la prière des justes, c'est aussi de ramener ceux qui sont plus loin de lui, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme si c'était injuste, parce que Abel, qui semble avoir une prière plus ajustée, sa prière, il semble que ça serve à ce que le Seigneur aille vers Caïn, en fait. Le Seigneur se fait absent pour Abel pour aller voir Caïn et tenter de le ramener à lui, en fait. Et ça va le conduire au martyr, ce qui est complètement renversant. Donc on voit bien que la jalousie dans la relation à Dieu, c'est Caïn qui vise Dieu en premier et son frère en second. Et par l'intermédiaire de Caïn, en fait, le démon vise Dieu et vise le peuple de Dieu qui est Abel, en la personne d'Abel, qui est injuste, et qui aurait eu sûrement un certain nombre de descendants justes, parce que quelqu'un qui est juste dans la Bible, en général, attire des grâces sur ses enfants, en fait. Hein. Alors on a un dialogue entre Caïn et Abel, qui est raconté dans un targoum, c'est-à-dire un écrit biblique, enfin un écrit juif, qui médite sur des textes, et là c'est la Genèse. Donc ce sont des rabbins qui racontent quand Caïn entraîne son frère au champ. Caïn dit à son frère Abel, viens, sortons tous deux au champ. Et il advint que lorsque tous deux furent au champ, Caïn répondit, et il dit à Abel, je vois que le monde n'a pas été créé par amour, qu'il n'est pas régi selon le fruit des bonnes œuvres, et qu'il y a dans le jugement acception de personne. Voilà, Dieu fait un tri en choisissant de manière arbitraire, quoi. Pourquoi ton offrande a-t-elle été accueillie avec faveur et mon offrande à moi n'a-t-elle pas été accueillie avec faveur? Abel répondit à Caïn en disant, je vois, moi, que le monde a été créé par amour et qu'il est régi selon le fruit des bonnes œuvres, parce que mes œuvres étaient meilleures que les tiennes. Peut-être, mon offrande à moi a été accueillie avec faveur, tandis que ta propre offrande n'a pas été accueillie avec faveur. Caïn répondit et il dit à Abel, il n'y a ni jugement, ni juge, ni un autre monde. Point de remise de récompense pour les justes, ni de châtiment pour les méchants. Abel répliqua à Caïn en disant, il y a un jugement, il y a un juge, il y a un autre monde, il y a remise de récompense pour les justes, et un châtiment des méchants dans le monde à venir. Sur cette question, tous deux se querellaient en pleine campagne, et Caïn se dressa contre son frère Abel, prit une pierre et le tua. Voilà, donc on a une réflexion quelques siècles avant Jésus-Christ par des juifs qui... c'est vrai que dans toute la tradition juive, quand on parle de Caïn, c'est vraiment celui qui a renié Dieu d'une manière forte. C'était pas juste le gars qui un jour s'est fâché contre son frère. Et ça, c'est quelque chose, finalement, si on se plonge un petit peu dans la tradition juive, on a un éclairage supplémentaire, et il y a certains textes de l'Ancien et du Nouveau Testament qui vont s'éclairer, parce qu'il y a ces présupposés-là que Caïn, c'était quelqu'un d'extrêmement mal barré sur le chemin de la grâce. Voilà. Donc, c'est la deuxième chose, à mon avis, dont se sert le démon pour utiliser un persécuteur, c'est le mensonge et l'incrédulité. Voilà. C'est le fait de... d'entraîner les autres et puis de faire des choses qui sont d'avoir un regard et une action double. Et puis l'incrédulité, on voit bien, c'est de toute façon il n'y a pas de justice dans l'autre monde, donc que je tue ou pas, que je commette l'injustice ou pas, ça n'a aucune importance en fait. On voit que Dieu protège les persécuteurs, déjà parce qu'il vient parler à Caïn, ensuite parce qu'il ne coupe pas avec lui, il vient chercher à le ramener à lui, parce que ce qui inquiète le Seigneur, c'est d'avoir quelqu'un qui est damné pour toujours, qui ne pourra plus se racheter, et surtout que déjà sur la terre, on lui fasse du mal. Et donc il dit à Caïn, je vais mettre un signe sur toi pour ne pas qu'on te fasse du mal. Et on retrouve un petit peu ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est pas à nous d'arracher l'ivraie quand il y a des choses mauvaises dans le monde, c'est il faut toujours prier pour que ce soit le Seigneur lui-même qui combatte le mal, et que quand c'est à nous d'arracher le mal, alors nous on peut arracher le mal de notre cœur, mais quand il y a des choses à combattre, de toujours dire Seigneur, est-ce que tu es sûr que tu veux bien que ce soit moi? Parce que c'est pas à nous d'exercer la justice. Voilà, il y a des anges pour ça, il y a des situations que Dieu utilise, mais il faut savoir que sur la tête des persécuteurs, il y a un signe. C'est-à-dire que le Seigneur met une protection spéciale sur les brebis qui sont le plus loin de lui, comme Caïn, et ce signe, ça va être des choses, des événements, des éléments particuliers qui protègent les gens loin de Dieu pour que Dieu puisse utiliser les circonstances pour ramener in extremis cette personne, en fait. Et nous, on va s'opposer au plan de Dieu si jamais on utilise la violence à l'encontre des persécuteurs, parce que ce n'est pas le moyen courant dont le Seigneur veut se servir contre les persécuteurs. Et alors Abel, donc il meurt, et il doit avoir une fécondité particulière, parce que si je lis la suite du Targum, il est dit « Qu'est-ce que tu as fait? La voix du sang des foules de justes qui devaient naître d'Abel, ton frère, qui crie contre toi de la terre en ma présence. » C'est-à-dire que pour Dieu, si le sang d'Abel a acquis quelque chose de sacré, une valeur inestimable, c'est parce que Abel, le juste, par excellence, a versé son sang, et ce sang qui était porteur de vie aurait dû donner naissance à une multitude de justes. Et en tuant Abel, le persécuteur qui est Caïn a brisé l'harmonie que le Seigneur voulait. Et c'est pour ça que dans toute la Bible, on va trouver toujours une référence au sang d'Abel qui crie vers le Seigneur, on le trouve partout. C'est vraiment le sang par excellence, et ça préfigure évidemment le sang du Christ qui va racheter toute l'humanité. Voilà, le juste par excellence qui verse son sang pour racheter l'humanité. La première persécution. Et donc cette fécondité dans le martyr qu'on voit déjà dans le martyr d'Abel par Caïn. On va regarder un deuxième itinéraire de persécution, c'est Ésaü et Jacob. C'est dans la Genèse au chapitre 25 et suivant. Donc là on a Ésaü et Jacob. On a tout d'abord une prophétie au verset 23 du chapitre 25 qui est « Le plus grand servira le plus petit ». C'est-à-dire que le premier-né qui est Ésaü, il sera au service de Jacob, le plus petit, le plus faible. On voit bien que c'est pas la force qui est l'arme absolue du Seigneur. On a dans la lettre aux Hébreux au chapitre 12, versets 16 à 17. L'auteur de la lettre aux Hébreux fait un commentaire. Que personne ne soit débauché ou ne manque de respect comme Ésaü qui céda son droit d'aînesse en échange d'un seul plat. Vous savez qu'ensuite, quand il voulut recevoir en héritage la bénédiction, il fut rejeté car il ne lui fut donné aucune possibilité de changement, bien qu'il l'eût réclamé en pleurant. Donc on voit qu'il relie la débauche avec le fait que Ésaü ait renié son droit d'aînesse. Alors on peut continuer, hein. Donc là, je suis encore allé chercher dans le Targoum, parce que le Targoum explicite ce qu'on trouve dans la Bible. Dans la Bible, on a, après que Ésaü se rende compte qu'il s'est fait doubler par son frère, et qu'il réalise ce qu'il a fait, il dit « Je vais attendre que mon père meure pour tuer mon frère ». Oui, c'est ça. Il dit je voudrais le tuer et je vais attendre que mon père meure parce que Caïn avait fait l'erreur de tuer son frère Abel avant la mort de ses parents et du coup ils ont eu d'autres enfants. Vous voyez, il y avait quand même l'esprit complètement tordu qui dit si j'attends la mort de mon père, au moins je tue mon frère, il pourra pas enfanter à nouveau et donc ça sera l'héritage sera à moi, vous voyez. Il y a la tradition juive a été plus un peu plus incisive, je pense, était un peu plus incisif que ce qu'on trouve dans la Bible. Bon, on retrouve aussi cette profession de foi dans la tradition juive. Alors justement, je vais vous donner, j'ai imprimé une autre petite BD. Qui raconte le reniement de Ésaü. Donc on retrouve au début l'histoire de Rebecca. Et puis la prophétie de l'Éternel qui dit « Deux nations seront issues de tes entrailles, l'aîné sera l'esclave du cadet, et puis ils naissent tous les deux. » Et puis on a Jacob qui tient déjà à sa naissance le talon de Ésaü, un signe qui le tient, vous voyez qu'il il a une ascendance sur son frère déjà. Et les garçons grandirent, Ésaü devint un homme habile à la chasse, un homme des champs, et Jacob était un homme doux qui restait sous la tente. Et c'est là que la tradition juive, en fait, va détailler un petit peu, parce que il est dit que, en réalité, il n'était pas que chasseur, il exerçait la violence de manière régulière, en fait. C'était quelqu'un de trompeur et qui arrivait à tromper son père, puisque il exhibait ses trophées de chasse et donc il en mettait plein la vue à tout le monde avec sa force, avec sa capacité à chasser, alors que Jacob était l'homme qui étudiait, l'homme qui finalement va recevoir la tradition ancestrale comme un cadeau pour pouvoir à nouveau être un patriarche qui va faire croître la famille en sainteté et accomplir le projet divin. Là, il est dit, Ésaü devint un homme habile à chasser, oiseaux et bêtes sauvages. Là, je suis dans le Targoum. Un homme sortant à la campagne pour tuer des gens. En effet, c'est lui qui mit à mort Nemrod et Enoch, son fils. Jacob, au contraire, devint un homme parfait dans ses œuvres, servant dans la maison d'études de Héber, cherchant instruction de devant Yahvé. Isaac aimait Ésaü, c'est qu'il avait à la bouche des paroles trompeuses, tandis que Rebecca aimait Jacob. Voilà. Et pourquoi Rebecca aimait Jacob ? Parce que la femme, elle va avoir un sens aigu de la famille et de ce qui maintient la famille, de l'équilibre de la famille. Donc forcément, Jacob correspond tout à fait au profil de celui qui va maintenir la famille, alors que l'autre qui pense à lui, qui est peut-être plus dans la politique, est moins enclin à faire croître la famille. Et on a Jacob qui est persécuté par Ésaü, puisqu'effectivement, après qu'il y a eu ce plat de lentilles que Ésaü veut s'accaparer, je replonge encore dans la tradition juive, il est dit que c'était pour la mort de son père, enfin de son grand-père, qu'il préparait un plat de lentilles. Donc c'était pas un complot qu'il préparait contre son frère, c'était un plat simplement pour honorer un défunt. Et il est dit, laisse-moi goûter, engloutir ce rouge, cette chose rouge, je suis affamé. Bon. Voilà, et il est dit en fait que ce jour-là, il était fatigué et il avait commis ce jour-là 5 péchés. Alors je suis encore dans la tradition juive, dans une tradition. Il avait commis 5 péchés, il s'était livré au culte idolâtrique, il avait versé le sang innocent, il était allé vers une jeune fille fiancée, alors le truc horrible. Il avait nié la vie du monde à venir et il avait méprisé le droit d'aînesse. En fait, la tradition qui réfléchit là-dessus dit c'est l'aboutissement un égarement en fait. Il a déjà dans sa vie, il n'était pas tip top, et en fait, il a commis les péchés les plus graves. Et le péché le plus grave, c'était de renier le plan divin pour le peuple d'Israël qui devait s'accomplir en lui, parce que c'était à lui de passer le flambeau au patriarche suivant. C'était à lui d'être l'ascendant de Jésus-Christ qui devait sauver l'humanité en fait. Donc on voit bien un acharnement du démon contre cette lignée royale, enfin cette lignée qui n'est pas encore royale, mais cette lignée du peuple de Dieu, pour faire en sorte de supprimer de la terre le peuple qui peut racheter l'humanité. Voilà. Et on a donc Jacob qui doit fuir après avoir reçu, normalement il a reçu la promesse de Ésaü, qu'il aura son droit d'aînesse, et il est obligé d'user d'un stratagème pour que son père le bénisse par la suite. Et il se fait aider par sa mère Rebecca. Donc on voit une préfiguration déjà du rôle de la Vierge Marie, où la Vierge Marie, un peu comme Jacob, qui va être revêtu d'une peau poilue, la Vierge Marie va nous revêtir des vêtements du Christ pour que la justice du Père, parce que normalement notre injustice devrait faire qu'on ne serait pas sauvé, et avec la bonne odeur du Christ, avec le vêtement du Christ dont nous revêt la Vierge Marie, on a cette bénédiction que le Père nous adresse, parce que on ne fait plus qu'un avec le Seigneur Jésus, quoi. Il y a quelque chose de très beau là-dedans, dans cet épisode. Et puis il s'enfuit et il se retrouve à fuir devant son frère, en fait. Quand son père meurt, il se dit, bah ça y est, là, je ne peux plus rester là. Et il est prévenu hein, que son frère va le tuer. Il est comme Jésus, en fait, dont les parents sont prévenus de fuir devant Hérode. On a un peu cette parole qui revient, qui est « Je ne veux pas que la famille continue, je ne veux pas que mon frère soit roi, je ne veux pas... » Et tu veux nous perdre, en fait. On retrouve un peu les paroles que les démons adressent à Jésus, au contact de Jésus, qui est le saint par excellence. Les esprits qui sont dans les personnes vont manifester une parole qui dit « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi es-tu là? Nous ne voulons pas que tu sois là. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. » Toutes ces paroles de malédiction qui sont, quand on est influencé, quand on est pécheur, qu'on est jaloux, qu'on est et puis qu'il y a ces paroles qui nous échappent contre le juste, contre celui qui est le plus pauvre dans la pièce autour de nous, dans notre famille, dans notre le péché, ça consiste en ça, voilà. J'ai trop mangé et ce soir-là, c'est tel enfant qui va prendre la grosse engueulade que je vais faire, et alors qu'il l'a pas mérité, parce que au départ, c'est moi qui jouait le jeu du malin, qui m'a séduit par la gourmandise, par exemple. Voilà, on retrouve ça. Bon. Je laisse de côté Jacob pour regarder un petit peu ce qui se passe avec l'histoire de Saül et de David. Donc là, on est dans le premier livre de Samuel au chapitre 13. 1 Samuel 13. On a au chapitre 13 Saül qui a été élu par Dieu, qui est impatient et qui offre un sacrifice à la place de Samuel. C'est-à-dire qu'il est censé attendre le prophète Samuel, il est censé l'attendre à Gilgal, et il attend 6 jours. Et Samuel lui avait dit, tu m'attends et puis moi je ferai un holocauste. Et puis il dit, bon, ça fait 6 jours, allez, on va gagner du temps, je vais faire moi-même l'holocauste, quoi. Et donc Saül se retrouve en fait à prendre la place du prêtre et du prophète. Il est en train de s'impatienter, comme le peuple hébreu en bas du Sinaï qui s'impatiente parce que Moïse ne revient pas. Et puis on n'a qu'à s'amuser, on n'a qu'à manger, puis ils font un veau d'or, etc., etc. C'est l'impatience. Il lui a été tout donné, la royauté. On lui dit, c'est toi qui vas être au roi. Et il offre un sacrifice, voilà. Donc c'est un mauvais départ, je pense. Au chapitre 14, donc un chapitre plus tard, il y a un épisode de guerre où Saül va dire « Bah tiens, on n'a qu'à faire un jeûne pour que le Seigneur il nous fasse gagner la guerre, quoi. » Et en fait, il confond l'ordre des choses. Normalement, on jeûne pour dire « Seigneur, que veux-tu qu'on fasse ?» Et ensuite, on se met en branle. Lui, c'est pendant la guerre, il fait jeûner ses hommes, ce qui est quand même... voilà, enfin, j'imagine... Et celui qui trinque, c'est le plus fragile, c'est son fils, c'est Jonathan, Parce que dans la Bible, le premier-né, c'est un symbole de fragilité. Le petit, l'enfant, etc. Souvent, c'est lui qui trinque. Et lui, il est en train de mener un assaut contre une forteresse. Et au retour, il prend avec un bâton dans une ruche sauvage, il prend un peu de miel. Et quand quelqu'un lui pose la question de manière un peu indiscrète, est-ce que t'as mangé ou pas, il dit oui, bah je me suis, ça m'a fait du bien, voilà. Et donc son père lui dit, bah faut que je te tue parce que j'ai fait une loi là pendant 2 jours où on doit pas manger. Et donc on voit cet homme qui est en décalage avec l'ajustement au Seigneur, quoi. Il fait des choses pour le Seigneur, un peu comme Caïn, mais il reste un peu dans une attitude servile et en même temps de troc. Où je vais faire jeûner toute mon armée qui est en train de faire la guerre et je vais imposer des choses impossibles et je vais confondre en fait mon rôle de roi qui représente l'autorité avec le rôle de prêtre et de prophète qui sont des rôles de conseil, qui sont des gens en lien avec le Seigneur et voilà. Ça, c'est le chapitre 14. Le chapitre 15, on a une désobéissance au retour de la guerre contre Amalek, qui est l'ennemi absolu d'Israël. Voilà. Amalek, pour nous, ça va être les mauvaises lois, ça va être le meurtre, ça va être les péchés mortels. C'est ça, Amalek, hein. Dans la Bible, c'est vraiment le mal absolu. Et quand il revient de la guerre et qu'il a vaincu Amalek, avec la grâce du Seigneur, il ne fait pas ce que lui demande le Seigneur. Il ne devait rien prendre, il ne devait rien s'accaparer de ce qui vient d'Amalek. Voilà. Le signe de, pour nous, il y a des choses, c'est mauvais tout court, voilà. Donc on ne s'accapare pas certaines choses en disant, voilà, j'ai un DVD pornographique chez moi, je vais m'en servir comme cale sous ma table. Il y a un danger à faire ça, évidemment, surtout si je suis père d'enfant ou si moi je suis fragile. Et il y a des choses, je prends cet exemple, mais on peut en prendre plein d'autres. On ne doit pas pactiser avec le mal, et il y a des choses vraiment mauvaises, on doit s'en éloigner tout court, voilà. Et Saül, il a fait un compromis. Et Samuel lui dit, bah, puisque c'est ça, il dit, le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à la parole du Seigneur? Non, l'obéissance est préférable au sacrifice, la docilité à la graisse des béliers, mais la révolte vaut le péché de divination, et l'opiniâtreté, ça vaut la sorcellerie. Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, il t'a rejeté, tu n'es plus roi. Voilà, alors il s'humilie, il dit j'ai péché, mais voilà, la coupe est pleine, là c'est pas possible. Et on a ensuite au chapitre 16 un esprit mauvais qui rentre en lui. On voit au verset 14, l'esprit du Seigneur s'était retiré de Saül et un esprit mauvais venu du Seigneur le tourmentait. Le venu du Seigneur ne signifie pas que c'est le Seigneur qui a fait exprès d'envoyer un démon, mais plutôt que toute la providence est dans la main du Seigneur, y compris le rôle des méchants et des démons. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et on retrouve ça un petit peu plus tard parce que on a David qui vint au chapitre 17, qui vint Goliath. Après avoir enlevé l'armure de Saül, c'est-à-dire que Saül lui dit, tiens, je vais te donner mes trucs et astuces contre le mal, contre le mauvais. C'est mon armure très lourde, mon casque, mon épée. Et David, il dit, ah, je peux pas, là. Et puis il se décharge de ça. Et il prend 5 pierres au torrent qui peuvent être vues, par exemple, comme la Torah, les 5 livres de la Torah. 5, c'est aussi le chiffre de la grâce divine. Voilà, il ne s'arme que de Dieu et de la petitesse, et il arrive à battre Goliath, et ensuite il est persécuté par Saül, puisque au chapitre 18, il y a la jalousie vraiment exacerbée de Saül, et au chapitre 18, il essaie de le planter avec sa lance, parce que en plus, c'est David qui est venu pour jouer de la lyre, pour le soulager de cet esprit mauvais qui le tourmente, et Saül qui essaie de le tuer. Et puis un récit du premier attentat manqué avec 2 coups de lance. Ensuite, Saül essaie de le prendre au piège en le mariant, en voulant le marier de force avec sa fille, en disant bah voilà. Et puis il échoue. Et puis finalement, c'est une de ses filles, Michal, qui tombe amoureux de lui. Et puis ensuite, Saül qui dit bah je vais te demander une dot. Tu vas me ramener 100 prépuces de Philistins. Donc il faut que tu tues 100 Philistins en disant bah il va bien mourir. On a bien un sur les 100 qui va voilà. Et David fait quelque chose qui est très révélateur de une personne persécutée. Ou un chrétien qui accepte les épreuves qui viennent du Seigneur, en fait, a la capacité, même quand on lui demande quelque chose d'impossible, on lui demande 1000 pas, le chrétien, il va faire 2000 pas, et il va faire beaucoup plus de bien que le plan machiavélique qu'on lui avait mis devant les yeux. Voyez? Et donc, David, il tue 200 Philistins. Il ramène 200 prépuces de Philistins. Donc on voit que Il a exécuté l'ordre de Saül, qui était un ordre bah, un peu comme visant à le faire mourir, et il a fait plus de morts et plus de ravages encore que il a eu une victoire plus éclatante encore. Voilà. Et il y a un deuxième attentat raconté au chapitre 19, où du coup David doit encore prendre la fuite. Donc en somme, pour clore cette partie sur que se passe-t-il dans la tête du persécuteur, on voit vraiment qu'une des clés, c'est le regard du Père à porter sur les pauvres persécuteurs égarés. Ouais, c'est ça, c'est le persécuteur, c'est quelqu'un qui s'est laissé embarquer dans des mauvais chemins et qui se retrouve avec un esprit qu'il n'arrive plus à contrôler et qui se met à exercer des persécutions à l'encontre d'un chrétien, à l'encontre d'une personne qui essaie d'être juste, à l'encontre d'un petit. Et il est demandé aux chrétiens que nous sommes d'aimer ceux qui nous persécutent parce que c'est le regard que le Père porte sur ses persécuteurs et parce que le Père a mis un signe sur les persécuteurs pour les empêcher d'être tués par la violence parce que s'ils étaient tués par la violence, ils iraient en enfer. Ou ils iraient au purgatoire pour très longtemps s'ils ne sont pas trop atteints par le mal. Alors que le Père a d'autres projets pour les persécuteurs, c'est le sang versé des martyrs ou sans aller jusqu'aux martyrs, c'est l'acceptation de ces persécutions, c'est dire Seigneur, je souffre ça pour que ça diminue la force de cet esprit qui tourmente mon persécuteur. Voilà. Et on a le Christ qui était comme ça. Je pense que c'est ce qui l'a fait tenir, le Christ jusqu'à la croix, c'est que chaque personne qu'il frappait, chaque personne, eh ben, c'était une personne potentiellement qu'il disait que moi, Jésus, je peux racheter. Il a réussi son coup parce que le bon larron est mort martyr, on peut dire ça, parce que il a dit. Ben voilà, je me reconnais petit, parce que je reconnais que Jésus est plus grand que moi, je reconnais que c'est injuste et puis que nous, on est des bandits, et je vais offrir mon sang pour Dieu, en fait, c'est ça qu'il a fait. Et pourquoi Jésus a dit, avec moi ce soir, tu seras au paradis? C'est pas uniquement une question de miséricorde. Je pense qu'il y a aussi, parce que peut-être que la première miséricorde qui a été faite au bon larron, c'est de lui faire percevoir comment il pouvait rendre utile ce moment pour offrir son sang pour le salut du monde avec Jésus. Voilà. Je pense que c'est ça la plus grande victoire de Jésus, c'est d'avoir comme un rayon qui a frappé le bon larron pour lui faire comprendre, bah ouais, je vais offrir ma vie avec Jésus et il va m'entraîner au paradis avec lui, quoi. Voilà. Et il a offert sa persécution qui était juste à son encontre peut-être, ou peut-être exagérée parce que normalement on ne devrait pas porter la main sur quelqu'un, mais il l'a offerte et il est monté au paradis. En deuxième partie, le rugissement. Le rugissement qui est donc décrit un petit peu dans la première lettre de Saint Pierre, au chapitre 5, à partir du verset 8. Il parle du démon. Il dit, soyez sobres, soyez vigilants, votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Voilà, le rugissement, c'est caractéristique. C'est une parole ou un cri, ça peut être un cri silencieux, qui va nous glacer d'effroi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va exercer une persécution parce que quand je vais l'entendre, je vais me dire, il n'y a plus aucun espoir, je ne vais jamais m'en sortir, quoi. Ça va. Effectivement, d'après ce qu'il me dit, je suis coincé, je suis dans une impasse, je suis dans l'impossibilité d'être sauvé. Voilà. Et moi, il m'est arrivé d'entendre certaines paroles, par exemple dans les médias, de la part de personnes, ça m'a complètement déprimé. Je me suis dit, c'est pas possible, on a perdu, quoi. Voilà. Et après coup, je me suis dit, bah voilà, ça c'était un rugissement, quoi. C'est comme si un mauvais esprit avait soufflé comme ça et que ça m'avait congelé sur place, quoi. Ça m'avait glacé le cœur et c'est vraiment cet effet-là. C'est la peur, l'effroi et la désespérance. Alors, il y a un rugissement qui est raconté, à mon avis, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 18. Le deuxième livre des Rois, au chapitre 18, où on a le roi d'Assyrie qui envoie une délégation au roi à Jérusalem, donc c'est le roi de Juda. C'est à l'époque où il y a le schisme, vous savez, il y a le royaume de Juda et le royaume d'Israël plus au nord. Et il envoie une délégation et il dit, à partir du verset 21, il dit, voici que tu as mis ta confiance sur l'appui de ce roseau brisé, sur l'Égypte, sur ce pays qui n'a pas de force, sous-entendu, qui pénètre et transperce la main de quiconque s'appuie sur lui, tel est le pharaon roi d'Égypte pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Voilà. Première partie dans ce rugissement, c'est, il va pointer les contradictions dans la foi du roi de Juda. Voilà. Il dit, vous croyez dans le Dieu d'Israël, mais regardez, vous appuyez sur l'Égypte. Voilà. Donc pour nous, si je transpose, ça va être toi qui es catho, tu télécharges illégalement. Enfin, on voit bien ça nous pétrifie un petit peu. Donc première partie. Deuxième partie à partir du verset 22. Si vous me dites c'est dans le Seigneur notre Dieu que nous avons mis notre confiance, n'est-ce pas lui dont Ézéchias, donc le roi à qui il s'adresse, dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et Jérusalem, c'est devant cet autel à Jérusalem que vous vous prosternerez. Donc là, il est en train de semer la division envers le responsable, parce qu'il est en train de désigner le roi en disant le roi a pris une mauvaise décision. Et le roi a fait quelque chose pour le Seigneur, il a fait disparaître les autels des Baals, des faux dieux, il a fait disparaître ça, et regardez la situation dans laquelle vous êtes, je suis là avec toute mon armée en train de vous encercler. Voilà. Deuxième partie du rugissement, c'est je montre mes muscles et je sème un doute à l'encontre de ceux qui vous gouvernent, à l'encontre du chef, à l'encontre de celui qui a l'autorité. Troisième partie à partir du verset 23. Lance donc un défi à mon seigneur, le roi d'Assyrie. Donc là, parce que c'est un émissaire qui parle au nom du roi d'Assyrie. Et je te donnerai 2000 chevaux, si toutefois tu peux te procurer des cavaliers pour les monter. Comment pourrais-tu faire reculer un simple gouverneur, le moindre des serviteurs de mon seigneur, toi qui as mis ta confiance dans l'Égypte pour des chars et des cavaliers? Voilà. Donc, il souligne l'absence de force humaine, en fait. Il dit, il ramène tout à quelque chose de très humain, en disant, vous n'avez pas de force, vous êtes nul. Voilà, c'est vraiment... Quatrième partie. D'ailleurs, est-ce sans l'assentiment du Seigneur que je monte contre ce lieu pour le détruire? C'est le Seigneur qui m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Voilà. Là, il lui fait croire qu'il vient de la part du Seigneur, et on voit que c'est faux parce que après, un peu plus tard, il dira qu'Ézéchias ne vous persuade pas de mettre votre confiance dans le Seigneur. Voilà. Etc. Et puis après, il dit est-ce à ton maître et à toi que mon Seigneur m'a envoyé dire ces paroles, n'est-ce pas aux hommes assis sur la muraille qui seront réduits comme vous à manger leurs excréments et à boire leur urine? Parce qu'il dit, en gros, on va faire un siège et vous allez vous retrouver dans un dénuement extrême et vous allez vous déshumaniser complètement. Le rugissement est une parole qui déshumanise. C'est-à-dire qui va chosifier les gens, qui va dire, en gros, c'est même pas des gens, de toute façon, ils sont dans une pauvreté extrême, ils sont nuls, et qui va prendre un défaut, par exemple, en disant, cette personne, on peut la résumer à ce défaut-là, on peut... Vous voyez, c'est le mal absolu, en fait, hein, qui parle. Après, il dit... Liez-vous d'amitié avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera les fruits de sa vigne et de son figuier, boira l'eau de sa citerne, etc., etc. Donc, on a une promesse qui ne sera pas tenue. Vous voyez, on a donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'en temps de persécution, je dirais que la mission du chrétien, c'est d'abord, je garde la tête sur les épaules pour ne pas me laisser séduire et je recule et je me dis, Seigneur, il y a un psaume dans le psaume 4, on trouve, mais vous tremblez, ne péchez pas, réfléchissez dans le secret, faites silence. Voilà. Je tremble intérieurement, mais je ne pêche pas en rentrant en dialogue avec cette personne, parce que c'est ce que fait Ézéchias. Il dit, d'accord, très bien, taisez-vous maintenant. Il va prier. Et ensuite, il revient à la charge en disant d'autres choses, l'émissaire. Et ensuite, il y a le prophète Isaïe qui intervient et il y a un ange du Seigneur qui massacre toute l'armée du roi d'Assyrie. Donc on voit qu'il y a une victoire éclatante donnée. Et ça peut être symbolisé par soit une victoire sur la terre, soit ce qui se passe au moment de la résurrection où il y a les bons anges et enfin les anges qui vont lier l'ivraie en bottes et la brûler, c'est tous les méchants, et ensuite qui va s'occuper des bons pour les mettre dans les greniers du Père. Voilà, et ça c'est les bons. Donc le rugissement, je dirais qu'en tant que chrétien, c'est un bon entraînement de d'essayer de les reconnaître, de ne pas rentrer en dialogue, et puis on peut méditer aussi sur Jésus qui est au désert, et je pense que les trois tentations, c'était des rugissements. Il y a des mystiques, vous savez, comme Anne-Catherine Emmerich ou d'autres, qui ont vu ces épisodes des tentations et qui ont écrit un petit peu plus de paroles que le résumé qu'il y a dans les évangiles, et on voit qu'il y a un rugissement qui est quand même très fort, parce que le démon va dire à Jésus, aurait dit à Jésus, enfin d'après ses écrits, de toute façon, je tiens tous les hommes dans ma main. Voilà ce qui est sous-entendu par tous les royaumes m'appartiennent. De toute façon, il n'y en a pas un qui m'échappe. Voilà. Et de toute façon, ils sont tous perdus parce qu'ils sont tous dans ma main. Vous voyez, il est en train de dire ça à Jésus qui prépare sa mission. Quoi. C'est vraiment le rugissement par excellence, quoi, pour le glacier d'effroi. On va passer à la partie suivante, donc la juste attitude du persécuté, un petit peu comment faire lors des persécutions, des petites ou des grandes persécutions. Alors première attitude, la fuite, c'est l'attitude de base de David devant Saül. Voilà. David il s'accroche à il ne faut pas lever la main sur le roi. Donc à partir de 1 Samuel 20 et jusqu'au chapitre 31, 1 Samuel 20 à 31, c'est la fuite de David qui va de tribu en tribu, et qui va même dans des tribus étrangères. Il va chez les Philistins, il va à Moab, et on retrouve Jésus qui est persécuté et qui va en Égypte, en fait. C'est-à-dire que la persécution nous fait rentrer en contact avec des gens avec qui on ne serait pas rentré en contact. C'est ça le symbole, en fait. Et va nous faire côtoyer des personnes. Voilà, je sais pas, j'ai été malmené par un tel, et il y a une personne, un de mes collègues, qui va me consoler, et comme je suis un peu dans la détresse, et ben, je vais rentrer en dialogue avec lui, et mon humanité va le toucher. Voilà, les persécutions nous font faire des voyages, parfois nous font faire des folies, je dirais, sur les personnes qu'on va rencontrer ou sur les choses qu'on va faire qui sont un peu inhabituelles, parce que c'est étranger pour nous, c'est des lieux où on ne va pas, c'est des voilà. Donc David devant Absalom. Alors donc là, le premier motif, c'est ne pas lever la main sur le roi. Voilà. Nous, ça peut être je ne lève pas la main sur un tel qui est une créature du Seigneur. Donc je ne vais pas critiquer. Je vais m'entraîner à ne pas répliquer et à dire des Notre Père jusqu'à ce que j'arrive à lui pardonner et que le Seigneur me donne la force pour ne pas que la moindre critique vienne me souiller ma bouche quand je vais parler d'elle. Voilà. Par contre, alors là, je m'appuie aussi sur des écrits. De mystique qui raconte que Jésus pendant son ministère venait dans les bras de la Vierge Marie qui le consolait, et je trouve ça très beau. Moi, ça m'a beaucoup touché, parce que Jésus qui était homme et Dieu, son humanité avait besoin d'être consolée, et il s'autorisait à parler de choses, y compris des persécutions qu'il avait eues, sans critiquer, parce que son mobile n'était pas de soulager la mauvaise langue, etc. Non, c'était plus de raconter en vérité, comme on raconterait à son conjoint ou à un bon ami, simplement pour qu'il nous apporte un éclairage. En fait, quand c'est dans ce cadre-là, oui, de dire des choses sur son persécuteur, c'est tout à fait louable. Et on a comme deuxième mobile que peut avoir quelqu'un qui est persécuté, c'est David qui fuit devant son fils Absalom, c'est de vivre cette persécution comme une expiation, parce qu'il se dit finalement j'ai trompé Uri le Hittite parce que j'ai couché avec sa femme Bethsabée et j'ai tué son mari aussi, et à cause de ça je suis persécuté par mon propre fils. Et donc si nous on s'entraîne à dire Seigneur, peut-être que dans cette persécution que je vis il y a des causes qui sont dues à mes propres péchés, c'est un bon entraînement pour supporter ces persécutions, parce que David c'est ça qu'il a fait, et il a demandé qu'on ne tue pas son fils, et donc c'est d'autres qui l'ont tué, etc. Bon, là, voilà. On a Jésus qui fuit devant les foules et les pharisiens. Voilà, on a, c'est-à-dire qu'il n'a cessé de fuir, et c'était une forme de persécution, parce que les gens voulaient le faire roi, voulaient lui donner les honneurs, voulaient lui faire manger de l'ivraie, en fait. C'est ça. Deuxième attitude du juste devant le persécuteur, c'est ne, ça peut être de ne pas ouvrir la bouche. Donc on peut penser au serviteur souffrant d'Isaïe, en 53:7, il n'ouvre pas la bouche. On a aussi dans le psaume comme un agneau mené à l'abattoir qui n'ouvre pas la bouche. Donc Jésus se tait, voilà, et son silence en fait montre que s'il l'ouvrait, en fait, s'il disait quelque chose, il ne pourrait que condamner, parce qu'il a autour de lui que des gens qui blasphèment et qui maudissent Dieu et qui disent des faussetés. Et se taire, c'est déjà un signe qui est très fort, se taire. Et il se tait sauf quand son silence constituerait un contre-témoignage. C'est-à-dire qu'il y a le grand prêtre qui lui dit « Je t'exhorte par le Dieu vivant à me dire si tu es le Fils de Dieu. » Et là, s'il s'était tu, ça aurait été un contre-témoignage. Et là, on retrouve tous les martyrs qui ont dit des choses extrêmement belles à leurs persécuteurs pour louer le Seigneur, comme Étienne qui dit « Je vois les cieux ouverts » et qui fait tout un discours devant ses persécuteurs. Quand notre silence pourrait être un contre-témoignage, l'Esprit-Saint intervient à l'inverse, pour, au lieu qu'on soit comme une brebis muette, qui témoigne par son mutisme, on va témoigner par la science divine qui nous est donnée. Alors, on a d'autres attitudes qu'on voit au niveau dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, avec Jacob et Ésaü. Quand Jacob fuit devant Ésaü, et que à un moment, on lui dit il y a Ésaü qui vient à ta rencontre. Et là, il se met à trembler de toutes ses forces, et il sait plus où se mettre, et il échafaude quelque chose d'un petit peu compliqué, parce que il dit je vais diviser mon peuple en plusieurs, et les femmes et les enfants, pour être sûr que tout le monde ne se fasse pas tuer. Et je trouve ça très beau, parce que il se met en quatre. Il se met en quatre parce qu'il envoie des messagers à Ésaü pour s'excuser, pour dire en fait si je suis allé dans une autre tribu, c'était pour me marier, je suis allé chez Laban et c'est pour ça que je suis resté 14 ans chez Laban et voilà, je me suis marié avec Léa et puis avec Rachel et c'était pas pour te faire un mauvais coup et d'ailleurs en signe de ma bienveillance, je te donne des troupeaux, je te donne des chameaux, je te donne des provisions, etc. Voilà, donc il couvre de cadeaux son persécuteur. C'est quelque chose qui est assez confondant, en fait, parce que dans le contexte, il donne, enfin voilà, il s'explique, et puis... Ça, c'est la troisième attitude, c'est de rester bienveillant et bon, et même d'avoir une surabondance de bonté pour les persécuteurs. Quatrième attitude, c'est l'inquiétude pour les autres. Et là, on voit bien que tout ce qu'il fait comme micmac pour séparer les servantes, les femmes, c'est pour ne pas qu'il se fasse tuer par son frère Ésaü. Ce qui le préoccupe, c'est pas lui-même, c'est les autres, en fait, dans la persécution. Et ça, je trouve que c'est un mobile qui est très beau, de s'inquiéter pour les autres. Saint Paul dira, dans la deuxième aux Corinthiens, je crois, mon souci, c'est que quand quelqu'un tombe, je souffre avec lui. Voilà. Mon souci, c'est les églises de Dieu. Voilà. Quand quelqu'un tombe, je souffre avec lui. Et c'est pour lui, c'est un souci permanent. En fait, il arrive à détourner son regard de lui. Et du coup, il ne voit pas les persécutions, la faim, la soif, etc. Parce qu'il pense à, dans les églises où je suis passé, il y a peut-être des gens qui vont tomber, des gens qui vont succomber à la persécution, quoi. Voilà, donc la quatrième attitude, l'inquiétude pour les autres. Cinquième attitude, donc la juste réponse, j'en parlais un petit peu. Je trouvais un passage que j'aime énormément dans le livre de la Genèse, de l'Exode, pardon, au début du livre de l'Exode, quand Pharaon fait une loi infâme en disant maintenant, les sages-femmes, vous allez tuer les garçons. Et on a les sages-femmes qui se retrouvent bloquées parce qu'elles ont donné leur vie pour donner la vie, pour sauvegarder la vie des mères et des enfants, et on leur dit tout simplement tu vas tuer les enfants, quoi, enfin aller à l'encontre de ta vocation, quoi. Et il est dit, les sages-femmes craignirent Dieu, elles ne firent pas comme leur avait dit le roi d'Égypte. Voilà un cas de désobéissance à l'autorité, parce que il y a péril dans la demeure. Et elles laissèrent vivre les garçons. Le roi d'Égypte alors les appela et leur dit « Pourquoi avez-vous fait cela et laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes dirent au Pharaon « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont pleines de vie. Avant que la sage-femme n'arrive auprès d'elles, elles ont accouché. » Et moi, il me semble qu'il y a une méditation à faire là-dessus, parce que on peut dire peut-être que c'est un acte de foi, peut-être qu'elles ont dit ça en disant, bah, le Seigneur se débrouillera pour les laisser en vie avant qu'on arrive, quoi, pour qu'on obéisse à la fois à Pharaon et à la fois qu'il se passe un miracle. Et en faisant ça, y a peut-être un ange qui allait prévenir les femmes hébreues, et puis il y a eu un flot de grâce qui est venu. Et moi, je trouve que méditer sur cette phrase-là, je suis persuadé qu'il y a une clé pour quand on est coincé. Voilà, et l'autre jour, il y avait à l'adoration, il y a quelqu'un qui était très embêté parce que son plus gros client, il avait des doutes sur ce client-là, parce qu'il disait, je ne sais pas si le Seigneur me montre des signes que peut-être qu'il faut que je demande à ce client d'arrêter les contrats avec lui, quoi. C'est le client grâce à qui il avait monté son agence historiquement, etc. Et puis on a prié, et puis le Seigneur a. En fait, on est tombé sur des textes qui disaient clairement il faut pas continuer avec lui, quoi. Je ne me suis pas assis dans le cercle des moqueurs, je n'ai pas pactisé avec eux. Enfin, les trois textes étaient univoques, c'était vraiment il faut pas continuer avec lui. Et il se disait mais comment je peux faire pour lui dire, parce que il va m'allumer, quoi. C'est grâce à lui que j'ai monté ma boîte, quoi. Et on a réfléchi ensemble justement sur ce passage-là et en fait les sages-femmes s'appuient sur des choses très concrètes. Et en fait, le Seigneur, il nous éclaire sur comment je peux à la fois ne pas être à peu près en règle. Voilà, moi, je suis médecin accoucheur et on me demande de faire des avortements. Comment je surfe sur quelque chose qui est impossible ? Et le Seigneur, il nous donne toujours une réponse. Et là, pour cet homme-là, qui était son plus gros client, la réponse, c'est venu dans la prière aussi. Mon entreprise n'a pas une taille qui permet votre. Enfin, il y avait d'autres arguments concrets qui étaient tout à fait réels, qui lui permettaient de se désengager sans blanchir de l'argent sale, pour le dire. Enfin, parce que là, dans la prière, c'est venu de manière très forte. Il fallait pas continuer avec lui, quoi. Voilà. Et dans le cadre de la persécution, quand on se retrouve, c'est une forme de persécution quand il y a une loi qui nous oblige à faire quelque chose, ou quand on nous donne un ordre qui est vraiment quelque chose d'horrible et qu'on sait que la personne, on ne pourra pas la retourner parce que c'est pas quelqu'un qui est bienveillant, par exemple, eh bien, le Seigneur va répondre toujours à nos prières pour nous donner une solution pour trouver la bonne parole. Une partie sur les grâces lors de la persécution. Alors, une des grâces lors de la persécution, c'est que le Seigneur, la première grâce à mon avis, c'est que le Seigneur nous envoie du soutien actif. C'est qu'il y a des personnes qui vont être sur notre route, comme par hasard, pour nous aider dans la persécution. Le premier exemple, moi, que j'ai en tête, c'est Jonathan, au chapitre 18 du premier livre de Samuel. Donc, toujours la persécution de David par Saül. On a une phrase qui est très belle, qui est dit... Or, dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David et l'aima comme lui-même. Et je trouve ça très beau parce que il y a la naissance d'une amitié. Ouais. Il devait avoir l'impression que leurs âmes se connaissaient. Voilà, il y a une affinité spirituelle. Vous avez peut-être déjà vécu ça, sûrement même. Il y a des gens, on ne sait pas pourquoi. Au niveau des qualités et des défauts, on se dit, c'est bizarre, quoi. Je m'entends aussi bien avec lui ou elle. Et il y a quelque chose de surnaturel qui nous relie. Voilà. Chez les saints aussi, il y en a qui racontent ça, hein, des saintes qui avaient un confesseur ou qu'il y avait quelque chose de grand qui les reliait. Et là, c'est ça que souligne ce texte, je pense. Hein. C'est pas du tout des choses malsaines comme certains disent, l'homosexualité ou je sais pas quoi. Là, c'est pas du tout ça. Il s'agit vraiment d'une affinité spirituelle, parce qu'il l'aimait comme lui-même. Voilà. Et Jonathan se dépouilla du manteau qu'il portait, il le donna à David, ainsi que ses habits, jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Et cette affinité spirituelle, c'est très beau parce que du coup, ça fait penser aux saints. Nous, des fois, il y a un saint qui nous est donné dans la prière, et le saint, il va se dépouiller, Jeanne d'Arc, il va se dépouiller de son casque, son épée, son ceinturon pour m'aider à combattre, parce que toutes les grâces qu'elle a reçues dans sa vie de sainte, elle va me les donner quand je vais l'invoquer. Voilà. Ou tel saint, ou telle personne de ma famille. Une amitié spirituelle. L'Esprit Saint va me montrer qu'il faut que je prie tel saint, telle personne, ou que je prie avec telle prière. Voilà. Et il se passe la même chose qu'avec Jonathan. Au chapitre 19, Jonathan, il s'interpose. C'est-à-dire que son père va va dire « Je vais tuer cet homme », etc. Et lui, il prend la défense de David et il commence, et il y a un attentat contre lui parce que Saül prend sa lance pour planter son fils, quoi. C'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu le rôle de Jean-Baptiste, en fait. Jean-Baptiste qui est le précurseur du Seigneur et qui avait un amour pour le Seigneur extraordinaire, ou Saint-Jean. Qui, comme Jonathan, dans l'amitié avec David, Jean, il s'identifiait au Seigneur d'une manière très forte. Il voulait être comme Jésus, quoi. Et si il est le précurseur de tous les consacrés, c'est parce que les consacrés, normalement, c'est des gens qui veulent devenir comme Jésus et qui ont un amour qui échappe même à la sexualité humaine normale, voilà, qui est d'avoir un conjoint et puis de vivre les joies de l'enfantement charnel, etc. Et dans les persécutions, c'est ça qui va nous être donné, en fait. On va rencontrer des amitiés spirituelles très fortes, des gens qui vont être sur notre route et avec qui il va y avoir un affermissement mutuel, en fait. Voilà. C'est décrit dans les Actes des Apôtres, ils s'affermissaient. En temps de persécution, et même quand c'est pas des persécutions fortes, c'est très important de pouvoir, avec ses amis, échanger sur les perles spirituelles qui vont réchauffer le cœur des uns et des autres, parce que c'est ça qui va nous faire avancer. On va s'identifier à l'autre, on va ne faire plus qu'un un petit peu dans l'amitié, pour pouvoir vivre les situations ensemble et puis prévenir certaines situations que l'autre aura déjà vécues et sur lesquelles il nous aura déjà éclairé. Et puis il facilite son départ au chapitre 20. Voilà. Donc, l'amitié spirituelle, c'est les gens que le Seigneur nous envoie, les saints, les... voilà. Deuxième soutien actif qu'on peut recevoir en temps de persécution, c'est Michal. C'est la fille de Saül, pour le coup. Alors, c'est marrant, parce que c'est son fils et sa fille qui se sont attachés à David. Il a pas de peau, le pauvre, qui voulait tuer David. Elle s'attache à David, et elle le fait descendre par la fenêtre, en 1 Samuel 19. Et elle fait un stratagème avec une idole qu'elle place dans son lit pour éviter que les soldats ne tuent David. Voilà. Et je trouve ça très beau parce que, pour moi, ça c'est vraiment la grâce dans la complémentarité homme-femme. Il y a une grâce particulière, en fait, on le voit, de manière imminente dans le mariage, forcément. Dans le mariage, il y a vraiment quelque chose de très beau qui permet de garder le cap en temps de persécution. Donc là, moi, ça me fait penser à un petit épisode dans le livre de l'Exode, enfin dans le Targum, dans un commentaire juif sur l'Exode, au moment où Pharaon dit « je vais persécuter, enfin je vais tuer les enfants mâles », et puis qu'il oblige les Hébreux à travailler plus, et puis du coup, ils se retrouvent à ne plus rentrer chez eux parce qu'ils ont le double de travail, ils doivent aller chercher la paille en plus de mouler les briques pour construire des choses. Donc on a en fait les femmes qui voient que leur mari ne rentre pas chez eux, et donc ils ne peuvent plus avoir d'enfants, en fait, parce que la persécution liée au travail, en réalité, c'est un plan démoniaque, je pense, pour limiter la fécondité du peuple d'Israël, en fait, voilà, c'est ça. On retrouve un petit peu la persécution contre les enfants, et on a les femmes, alors je ne retrouve pas, mais en gros, je vais résumer ce dont je me rappelle, les femmes, en fait, qui vont elles-mêmes, auprès de leur mari, emmener des cruches d'eau à leur mari, pour les désaltérer lorsqu'ils travaillent, en pleine journée, et qui font exprès de mettre des poissons, de remplir les cruches d'eau de poissons pour les alimenter, et qui en plus s'unissent à leur mari dans les vignes autour, enfin dans les... voilà, pour... Et du coup, il y a une grâce particulière, je trouve, parce que ils se retrouvent à avoir une relation avec leur femme particulière dans un contexte un peu de persécution, où la femme, elle va être le pilier de la famille, où elle va vraiment... parce que la femme, elle a une intériorité plus grande, généralement, enfin, elle a une facilité, peut-être, par rapport au mari, dans le domaine de l'intériorité. Et en temps de persécution, vous savez, dans l'Apocalypse, il est dit qu'à un moment, il y a le temple qui se remplit de fumée. Et ça, moi, je pense que ça désigne les époques de persécution où on a une difficulté plus grande qu'avant à rentrer dans le temple tranquillement et à se mettre à prier parce qu'on est oppressé par la peur, on est oppressé par la peur d'être tué, la peur d'être violenté, etc. Et c'est le moment où il faut se réfugier au désert, en fait, vous savez, où il faut prendre les deux ailes du grand aigle pour se réfugier dans son intérieur, voilà. Et la femme, en fait, elle a cette capacité, même en temps de persécution, à rappeler à l'homme, « Réfugie-toi dans ton intérieur et je vais t'aider à rencontrer ça, quoi. » Voilà. Et elle emmène de l'eau et du poisson à son mari. Et on voit bien, il y a beaucoup de symboles. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment une grâce particulière du temps de persécution. Troisième grâce, on voit Rebecca qui protège son fils Jacob et qui va le prévenir de la persécution d'Ésaü. Et ça, c'est la maternité. Et moi, je pense à la Vierge Marie, enfin, par rapport à notre propre mère et par rapport à la Vierge Marie. En temps de persécution, il y a une fécondité, enfin, la maternité nous est donnée pour nous défendre, en fait. Et la Vierge Marie va nous enfermer dans son manteau pour nous recouvrir et nous faire revenir au calme pour ne pas succomber à l'agitation intérieure. Parce que la tentation principale lors des persécutions, c'est l'agitation intérieure. Donc le soutien actif, c'était la première chose, à travers l'amitié, à travers les grâces de la complémentarité homme-femme et du mariage, et à travers la maternité. Deuxième grande grâce lors des temps de persécution, c'est les renversements de situation. Donc on a notamment, quand Jacob rencontre Ésaü avec tous ses troupeaux, tous ses cadeaux, etc., et Ésaü se met à pleurer, et il s'étreigne. Je trouve ça très beau ce passage parce que c'est un renversement complet de situation. Il a été touché par la grâce, en fait. Et en temps de persécution, il y a beaucoup de choses comme ça, en fait. De gens qui vont se retrouver retournés à un moment où on ne s'y attend pas. Voilà. Et il y a beaucoup de vies de saints, des gens qui racontent des choses et il se passe des choses un petit peu comme ça. On a Pierre délivré par les anges. Voilà, alors là, c'est Saint-Pierre qui est enfermé avec quatre escouades de quatre soldats, des murs impénétrables, etc. Puis il y a un ange qui vient, hop, et puis Pierre, il est pas réveillé. Et puis même quand il frappe à la porte, les autres, ils y croient pas. Parce que voilà, je trouve ça très très beau. Renversement de situation en temps de persécution, c'est l'intelligence. J'obscurcirai l'intelligence des sages. Voilà, ceux qui ont des yeux pour ne pas voir, ceux qui ont des oreilles pour ne pas entendre. Le Seigneur montre ses merveilles à travers des renversements de situation complètement improbables, à travers même un renversement de situation. C'est Paul et les autres là qui sont libérés de la prison et qui retournent sur la place publique ou au temple pour. Je trouve ça très beau parce que au temple, enfin au prétoire là, ils disent bah on vient de les fouetter et ils recommencent tout pareil avec encore plus de joie quoi. Il y a quelque chose, c'est un vrai renversement de situation. Une autre grâce qui correspond un petit peu au renversement de situation, c'est les persécuteurs qui se retrouvent dans la main des persécutés. On a donc la prophétie à la naissance de Jacob et Ésaü, où on a finalement Ésaü qui est dans la main de Jacob, en fait, parce que c'est Jacob qui a la capacité qui se retrouve avec la responsabilité de la famille, parce que c'est lui qui a le droit d'aînesse, au final, et c'est lui qui a la capacité d'intercéder pour son frère, en fait. Puisque quand on est persécuté, bah le persécuteur est dans notre main. Parce que si on lui pardonne, on a une capacité de l'envoyer au ciel. Voilà. Alors que si on ne lui pardonne pas, Jésus ne peut pas accomplir son amour à travers nous. Et le persécuteur risque d'être damné. Parce que si la persécution s'exerce contre nous, c'est que c'est nous qui avions la mission de racheter cette personne, en fait. Voilà. Et donc, le persécuteur est dans notre main. Et on a aussi, à deux reprises, Saül qui est à la merci de David. Parce que il se retrouve nez à nez dans une grotte, puis David ose aller vers lui, et puis coupe un morceau de son manteau pour lui dire « Regarde, j'aurais pu te tuer, et mes soldats m'ont tous dit de te tuer, mais je ne l'ai pas fait. » Voilà, ça se produit deux fois. La deuxième fois, il va dans le camp lui prendre des objets à son chevet. Et on a vraiment ça. Ça aussi, c'est un moyen qui nous est donné. C'est le Seigneur va nous montrer une porte. À un moment, va nous dire il faut que tu fasses ça. Voilà, il y a notre ange qui va nous montrer et on va faire quelque chose et qui va avoir une capacité de retourner le cœur de la personne en face. Voilà. Dernière grâce que j'ai trouvée lors des persécutions, c'est symbolisée par Élie à l'Horeb. Alors Élie, il a zigouillé 450 prophètes de Baal. Il a arraché le livret, lui. Hein. J'avais dit le mois dernier qu'il ne faut pas arracher livret. C'est le Seigneur qui arrache livret, il faut prier. Lui, il a carrément descendu 450 prophètes. Et Jésus avait dit, quand vous chassez un démon, vous faites le ménage, et après, il prend 7 démons plus méchants que lui, et puis il revient, quoi. Et là, il faut imaginer que dans les 450, il va y avoir des esprits qui se baladaient un peu, et puis ils viennent en masse, à travers Jézabel, cette reine impie, et qui va exercer une persécution extrêmement violente contre Élie. Et elle est d'autant plus violente, je pense, qu'il a usé lui-même de violence, et que le Seigneur lui dit « Attention, parce que t'es sur le fil, quoi, t'as été un peu loin. » » Et d'ailleurs, il va lui montrer avec des symboles à l'Horeb, il va lui montrer que c'est pas dans la tempête qu'est le Seigneur, c'est pas par la violence qu'on règle ses comptes, c'est dans le fin silence, quoi. C'est je te montre un bout de manteau pour te montrer que j'aurais pu te tuer. C'est ça, c'est le fin silence. Et donc le réconfort que Élie obtient dans un premier temps, c'est une cruche d'eau, enfin c'est d'avoir un ange avec une petite galette cuite au feu et puis une cruche à deux reprises parce qu'il s'endort la première fois. Et ça, c'est vraiment le signe des sacrements. Ça, c'est dans la Bible, on peut parler de l'étoile du matin. C'est déjà Dieu qui est là, de manière un peu masquée, mais qui est déjà là à travers le sacrement et qui va nous restaurer complètement dans les temps de persécution. Voilà. Et on a parlé un petit peu du sacrement de mariage tout à l'heure parce que le sacrement de mariage est extrêmement puissant. Voilà. Il faudrait qu'on en parle parce que c'est aussi puissant que l'Eucharistie, un sacrement de mariage. Mais, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et là, c'est plutôt peut-être l'Eucharistie, parce que c'est le petit pain et la cruche d'eau, et qui lui permettent de marcher 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Et c'est très beau. Voilà, et de passer à travers les persécutions. Voilà. En dernière partie, je vais dire un petit mot, rapidement, sur quelques signes précurseurs des persécutions, parce que Jésus a dit qu'il y aurait des persécutions. Et il y a un certain nombre de signes qui sont donnés de cette approche des persécutions. Jésus parle par exemple de la chute du temple. Et la chute du temple, c'est notamment, moi je pense, pour aujourd'hui, on peut penser à la perte de suprématie de l'Église. L'Église a été longtemps archi-majoritaire. Et aujourd'hui, l'Église est banalisée, quoi. On dit, vous n'êtes qu'une religion parmi d'autres. Voilà, l'État s'est éloigné de l'Église. Il y a très peu de personnes qui sont pratiquantes. On a les faux messies, les faux prophètes, dont parle Jésus à un certain nombre de reprises. L'avènement des faux messies, des faux prophètes, et aujourd'hui, il y en a beaucoup. On est dans une époque où on est particulièrement baigné de faux prophètes à travers le New Age, à travers un certain nombre de personnes qui entraînent d'autres gens à faire des actes de sorcellerie, de satanisme, qui reviennent en fait, parce qu'il y a cette superstition ambiante, et il y a des gens qui se réunissent et qui font tourner des tables, qui font des choses, qui parce qu'ils se disent, tiens, ça va être sympa, et puis on leur a jamais dit que finalement aucun acte n'est gratuit, et que quand on fait quelque chose, on a des conséquences, quoi, et on a un lien après, on a comme Saül qui va faire des choses interdites, on a après un esprit qui nous influence et puis qui rentre en nous petit à petit. Jésus a parlé de guerre et de rumeurs de guerre, et moi je pense que depuis qu'il y a les médias, il y a une capacité à inonder la terre entière de nouvelles vraiment qui tuent l'espérance. Et du coup, c'est vrai que on n'a jamais eu autant de guerres et de rumeurs de guerre qu'aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose qui est très fort aujourd'hui. C'est pour ça, nous, en tant que chrétiens, quand on regarde la télé, soit on regarde la télé juste pour avoir un peu les nouvelles et on dit, Seigneur, maintenant je vais prier pour ces gens parce que rien n'est gratuit en fait. Soit je prends cette nouvelle et je m'en sers pour prier pour les gens, soit j'éteins ma télé. Mais si je ne prie pas, il va se passer quelque chose qui va atteindre mon espérance, parce que je vais me dire à quoi bon finalement, et puis je vais aller sur une autre chaîne pour voir si il n'y a pas quelque chose de qui va remonter un peu le niveau, mais ça va être pire parce qu'il va y avoir d'autres victimes qui vont témoigner, il va y avoir d'autres circonstances aggravantes pour les meurtriers, etc., pour les guerres. Donc on a une responsabilité là-dessus, et il est bien dit ne suivez pas ceux qui prophétisent des guerres, c'est dans les prophètes que c'est écrit ça. Pourquoi ce tumulte des nations? Pourquoi ce vain tumulte des nations? Voilà. Donc nous, on peut se renseigner un petit peu sur toutes ces choses, mais il faut rester raisonnable parce que très vite, ça devient un enfermement et on est contaminé, quoi. Voilà. Paul, il a parlé de paix et sécurité. Ce jour-là, on dira paix et sécurité. Donc une fausse paix, une fausse sécurité. Et il se trouve que depuis 2009, c'est le slogan de l'ONU, paix et sécurité. Voilà, c'est quelque chose, c'est un signe très fort, je pense. On parle aussi de témoignages et d'annonces de l'Évangile jusqu'au bout des nations. Et ça, aujourd'hui, Jean-Paul II, notamment, a parlé à l'ONU devant toutes les nations. Voilà, et les chrétiens atteignent progressivement l'ensemble des pays, quoi. Donc on arrive à ça. Voilà. On parle aussi du retour d'Israël. On en parle un peu partout, notamment dans Romains chapitre 11, la lettre aux Romains chapitre 11. Et en 1947, il y a eu un miracle suite à des persécutions affreuses. Le miracle, c'était la fondation de l'État d'Israël. Ça, c'est le truc improbable, impossible. Ben, il y a eu ça. L'État d'Israël qui est fondé. On parle d'un certain nombre de choses, voilà. Et donc, moi, il me semble que on est dans une époque particulière où il y a un paroxysme, il y a quelque chose qui s'accentue de manière forte, et que il est probable qu'on voit de notre vivant des persécutions, parce que les lois se mettent en place petit à petit pour favoriser ces persécutions. Donc, il n'y a pas de raison qu'à un moment on y échappe. Il y a forcément un moment, on a bien vu avec les manifestations pour tous et autres, où il y a eu des répressions très fortes alors que les gens venaient de manière non violente pour ceux qui y étaient. Après, on souscrit ou pas, mais je pense qu'on peut au moins respecter la non-violence de ceux qui viennent manifester. Et aujourd'hui, petit à petit, même l'État, malheureusement, parfois prend des moyens qui ne sont pas des moyens sains pour réprimer des gens qui ont des idées adverses, quoi. Voilà. Donc si on peut dire un petit mot de conclusion sur tout ce qui touche à Gog, ce roi qui persécute, ce dragon rouge qu'on trouve dans l'Apocalypse, c'est cette attitude chrétienne qui va à l'opposé, qui est « aimez vos persécuteurs ». Et si vous n'y arrivez pas, qu'on demande à Jésus « aide-moi à l'aimer parce que c'est trop fort pour moi, c'est trop difficile pour moi, il n'y a que toi, à force de notre Père, qui peut m'aider à pardonner pour ces offenses qui m'ont été faites, et qui peut m'aider à avoir ce regard qu'a le Père pour cette brebis égarée, et qui va sans arrêt parler à, par exemple aujourd'hui, c'est le responsable de mon agence qui est malmené parce que tout le monde le critique, etc. Et si moi je suis humain avec cette personne qui pourtant fait des choses également répréhensibles dont tout le monde parle, eh ben je suis dans cette attitude du juste qui va essayer d'avoir ce regard du Père sur la personne pour lui proposer tu viens manger avec nous, pour lui parler normalement, alors que moi-même j'ai du ressentiment, je me dis j'ai été lésé aussi par cette personne qui a un gros salaire ou je sais pas quoi. Vous voyez, la persécution, ça peut même être ça, c'est dans le système, des personnes vont me persécuter. Et ces différents personnages qui nous ont précédés, donc Abel, on ne sait pas trop ce qu'il a pensé lorsque son frère lui a sauté dessus, mais voilà, c'est Jacob qui se confond en excuses et qui souffre pour d'autres personnes qui pourraient être persécutées. C'est David qui ne veut pas porter la main sur le roi et qui veut absolument qui dit « Seigneur, c'est peut-être à cause de mes péchés que je suis persécuté. » Voilà. Donc il y avait cette attitude aussi de comprendre quel est le rugissement, d'arriver à dire « Tiens, ça c'est un rugissement, je mets un arrêt. » Et je vais prier, ou j'en parle avec des personnes avec qui je peux échanger, sans que ça soit de la critique, pour discerner, parce que là, je suis ébranlé, et au lieu de faire n'importe quoi et d'agir, vu que ça m'a glacé ce rugissement, eh ben, je vais prendre un moment pour le confier au Seigneur et pour lui donner, quoi. Voilà. Parce que le rugissement, il faut rappeler, enfin, je ne l'ai pas dit, mais qu'un lion, il rugit, il avance pas en même temps. Le lion, il s'arrête, il rugit. Donc, quelqu'un qui rugit, il attaque pas tout de suite. Donc j'ai le temps de m'éloigner et de finalement comme l'armée là qui parle à Ézéchias avec ce rugissement, ils n'ont pas encore déployé leurs catapultes là, ils sont pas loin en fait. C'est un émissaire qui vient. Donc le malin n'a pas encore gagné lorsqu'il rugit. Il se prépare à attaquer, mais donc nous c'est un avertissement en fait pour prier, c'est ça. Le rugissement est un avertissement que le Seigneur nous envoie en disant prie et tu vas voir l'attaque qui va se passer, tu auras le dessus parce que tu te seras préparé. Voilà. Le rugissement t'aura averti, voilà, même si c'est désagréable d'entendre un rugissement. La juste attitude du persécuté, donc on a parlé un petit peu de la fuite, qui est l'attitude de base, hein, Sainte Thérèse disait ça, moi, parfois, voilà, il y a une sœur qui me dit un truc, plutôt que de lui répondre, je fuis. Ne pas ouvrir la bouche, le silence, c'est un vrai témoignage, parce qu'on s'unit au Christ qui a été silencieux devant la souffrance. Et puis, on a Jacob qui nous montre un petit peu comment avoir une bonne attitude avec Ésaü, avec... Et puis on a cette juste réponse qui peut venir au bon moment quand l'Esprit Saint vient en nous et que comme les accoucheuses en fait on va dire quelque chose en disant Seigneur aide-moi à trouver les mots et à ne pas mentir et en même temps à ne pas faire l'inverse devant Pharaon qui me demande quelque chose. Voilà, c'est la juste réponse nous est toujours donnée parce que il faut s'appuyer sur cette parole qui est que on n'est jamais tenté au-delà de nos efforts, de notre capacité. Donc quoi qu'on nous demande, même un médecin à qui on dirait « je te demande de faire des choses horribles, des avortements par exemple, eh ben, il a une capacité, Dieu va lui donner des armes pour pouvoir faire quelque chose, malgré la difficulté de la situation. Et puis on a parlé un petit peu des grâces lors de la persécution, du soutien actif que le Seigneur nous envoyait. Donc moi je pense que l'émerveillement devant les amis que le Seigneur nous envoie, ou devant les gens du sexe opposé, avec cette complémentarité merveilleuse homme-femme, ou notre conjoint, ou la maternité aussi, nos parents, et puis la Vierge Marie, enfin, les gens qui exercent une paternité ou une maternité sur nous, il faut s'en émerveiller parce que ça attire sur nous des grâces particulières lors de la persécution, et ça nous permet d'exploiter ces amitiés, ces liens qu'on a avec ces autres personnes pour profiter de leur perle spirituelle. Voilà. On a commenté un petit peu les grâces que le Seigneur nous donnait lors des persécutions, le soutien que le Seigneur nous envoyait, le fait que les persécuteurs soient dans notre main, qu'il fallait penser, en fait, dans le royaume de Dieu, c'est pas le grand qui écrase le petit, c'est le petit qui a le grand dans sa main, quoi. Et donc, j'ai la capacité, au nom de Jésus, de lui pardonner et de lui ouvrir les portes du ciel si j'arrive à le toucher par mon attitude, voilà. Et puis, les sacrements, on parlait, des sacrements qui sont vraiment ce qui permet de tenir dans la persécution, voilà. Je vous remercie.